Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Face à la défiance suscitée par les nouvelles restrictions sanitaires, Jean Castex a dû assumer les choix de l'exécutif hier soir sur France 2. Pendant près de 3 heures, il a tout assumé, quelques approximations à la clé sur la fermeture ou non des piscines notamment, vous l'entendrez.
Fermer des établissements sportifs d'ailleurs, c'est un coup dur pour les professionnels du secteur. Ils parlent même d'aberration alors que le sport est bon pour la santé et que les Français l'ont redécouvert pendant le confinement.
C'était l'une des promesses du Grenelle pour lutter contre les féminicides. Après plusieurs mois d'atermoiement, le bracelet anti-rapprochement destiné à éloigner de leurs victimes les conjoints et ex-conjoints violents va être déployé dans 5 juridictions dès aujourd'hui.
Il pourrait aider à faire respecter les contrôles judiciaires, mais il ne faut pas oublier l'accompagnement des victimes. Rappelle les associations.
À la une encore, la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, elle fait des victimes collatérales chez les constructeurs automobiles.
Et puis tant que durera l'épidémie, Catherine, autant vous l'avouez, vous retrouverez le camarade Nicolas Martin pour sa radiographie du coronavirus. Ça sera donc dans une dizaine de minutes.
Alors que la France a enregistré hier 16 096 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie et le lancement des tests à grande échelle dans notre pays, Jean Castex passait son premier grand oral, invité pendant près de 3 heures hier soir sur France 2, après les nouvelles restrictions décidées avant-hier pour lutter contre un rebond épidémique. Les restaurateurs, les élus du sud de la France ne décollèrent pas, tout comme les gérants de salles de sport dans les 11 métropoles placées en alerte renforcée, dont Paris. Que faut-il donc retenir de la prestation de Jean Castex hier soir? C'est ce que nous allons voir avec vous, Stéphane Robert. Bonjour.
Bonjour.
Le Premier ministre a tenu sa partition, justifiant les nouvelles restrictions mises en place, brandissant la menace d'un reconfinement. Mais il y a aussi eu quelques couacs, Stéphane, et des approximations.
Oui, Jean Castex est apparu comme un Premier ministre bonhomme, très empathique. « Nous ne vous laisserons pas tomber », a-t-il répondu à une restauratrice marseillaise indignée. Et on avait envie de le croire. Il a également fait preuve de beaucoup de pédagogie pour justifier les décisions prises. Il a brandi la menace d'un possible reconfinement, mais il a beaucoup expliqué, chiffres à l'appui, ce qui l'a conduit à prendre des mesures qu'il qualifie lui-même d'impopulaires.
Je, si vous me permettez, j'ai porté un petit graphique devant une
infirmière.
Alors
là, il va falloir le monter un peu.
Alors, voilà. Déjà, bon, le critère le plus important, c'est les gens qui vont en réanimation. Alors, vous voyez, nous en sommes ici. Voilà, ça monte. Et là, aujourd'hui, madame, selon mes informations, on commence à déprogrammer.
Et ça, c'est grave, déprogrammer, a poursuivi Jean Castex. Et à bien y regarder, tout le monde semblait avec lui convenir que oui, effectivement, ça n'était pas complètement injustifié. Mais qu'est-ce qu'il est maladroit, le Premier ministre? Notamment quand on lui pose cette question, est-ce que vous avez téléchargé l'application Stop Covid?
Non.
Non?
Quoi? Non. Non, parce que je ne l'ai pas fait.
Mais pourquoi?
Je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, j'ai...
Non, eh bien non, il n'a pas téléchargé, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas la réponse. Autre moment un peu gênant, quand on lui demande si les piscines vont fermer. Réponse?
Non.
Et pourquoi?
Et pourquoi? Non, parce, où est la cohérence?
On n'a pas de masque à la piscine.
Non, parce que c'est en plein air, d'abord.
Non,
Sauf celles qui sont couvertes.
Les piscines municipales.
Elles ferment les couvertes?
Oui.
Donc les piscines municipales, toutes les piscines couvertes ferment?
Oui.
Non, oui, finalement, celles qui sont ouvertes, non, celles qui sont couvertes, oui, et puis le ministre de la Santé est obligé de préciser, ce sera soumis à la concertation localement avec les préfets. On a donc découvert hier soir un Premier ministre empathique et même plutôt sympathique, mais un peu brouillon, approximatif, plein de bonne volonté, mais un peu gauche, et ça c'est un peu gênant pour un homme de droite.
Stéphane Robert, merci pour ces explications. Sur la fermeture des salles de sport, le ministre de l'économie Bruno Le Maire n'exclut pas, lui, des exonérations de charges ou des moratoires sur les loyers. Mais c'est insuffisant pour apaiser la colère de Philippe Diallo, président du Conseil social du mouvement sportif, l'organisation patronale des employeurs du sport.
Tout le monde s'était félicité de la place trouvée par le sport pendant la période de confinement. Et tout le monde aussi, je pense, peut se retrouver sur l'idée que le sport est un élément de bienfait pour la santé. De ce point de vue-là, le sport, évidemment, doit être une des priorités du gouvernement. N'oublions pas que c'est un élément d'éducation. Et pensons à tous ces sports scolaires, à tous ces jeunes écoliers qui vont prolonger dans les activités sportives une éducation qui, avec la fermeture des gymnases, des salles de sport, des clubs sportifs, eh bien, vont se retrouver en déshérence.
Philippe Diallo, président du Conseil social du mouvement sportif, il répondait à Stanislas Vazak. La situation sanitaire, qui chaque jour devient de plus en plus inquiétante en Europe, notre continent compte près d'un quart des morts dans le monde du Covid-19. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies tire à son tour la sonnette d'alarme pour 7 États membres de l'Union. Les précisions de Marie-Pierre Véraud.
7 pays qui connaissent une proportion plus élevée de cas graves que le reste du continent et une hausse de la mortalité. Outre l'Espagne qui a reconfiné plusieurs quartiers de la capitale et en appelle à l'armée, le centre de prévention des maladies pointe la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, mais aussi la Hongrie, la République tchèque et Malte. L'inquiétude porte surtout sur la nature des nouveaux cas, majoritairement des personnes âgées. 12 autres États, dont la France ou encore la Belgique et la Suède, enregistrent des poussées de Covid-19, surtout chez de jeunes adultes, mais voient les courbes se rapprocher du seuil dangereux où les plus vulnérables sont à leur tour atteints. Même chez les meilleurs élèves de cette rentrée, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Pologne, la vigilance reste de mise. Plusieurs régions obligent au port du masque, que ce soit en Bavière ou autour de Naples, et partout le débat repart sur le télétravail et la fermeture des lieux publics. En fait, les Européens restent globalement très exposés au virus du fait d'une faible immunité, moins de 15% dans la plupart des États. Et la source principale de contamination, ce sont les réunions privées. L'Union européenne appelle à durcir les contrôles avec des situations, dit-elle, parfois pires qu'au plus fort de l'épidémie en mars dernier.
La pandémie qui pousse aujourd'hui Israël à durcir son confinement aujourd'hui. Les synagogues seront notamment fermées, sauf lundi pour Kippour. La pandémie, nouvelle source de tension entre Pékin et Washington. L'ambassadeur chinois à l'ONU a balayé hier les accusations des États-Unis sur la Chine, responsable de la propagation du Covid-19, selon Washington. Mais avant de pointer du doigt les autres, quelle est la cause des 7 millions de cas et des 200 000 morts aux États-Unis, a demandé l'ambassadeur chinois, accusant Washington de propager le virus de la désinformation. À moins de 40 jours de la présidentielle américaine, par ailleurs, Donald Trump n'a toujours pas enterré la hache de guerre commerciale avec Pékin. Washington continue d'imposer des tarifs douaniers supplémentaires sur 250 milliards de dollars de biens chinois et cela complique les affaires des constructeurs automobiles qui sont pénalisés dès lors qu'ils importent des pièces détachées chinoises et plusieurs d'entre eux, Ford, Tesla ou Mercedes, exigent maintenant la levée de ces tarifs, Grégory Phillips.
Le médiatique patron de Tesla, Elon Musk, a écrit lundi dernier au représentant américain au commerce, Robert Lighthizer, une plainte de 17 pages que l'agence France Presse a pu consulter. Dans cette plainte, Musk estime que les droits de douane supplémentaires de 25% imposés par l'administration Trump sur les produits chinois d'importation sont à la fois arbitraires, capricieux et abusifs. Tesla, par exemple, importe des écrans d'ordinateur que le constructeur installe dans ses véhicules, 25% plus cher que d'habitude, Musk demande à être remboursé et avec intérêt. D'autres constructeurs ont aussi saisi le tribunal de commerce à New York, Ford, Volvo ou encore Mercedes qui a des usines en Alabama. Le géant allemand de l'automobile estime que la loi américaine n'autorise pas une administration, quelle qu'elle soit, à mener ainsi une guerre commerciale illimitée. Les groupes automobiles sont du même avis que l'Organisation mondiale du commerce qui considère que ces tarifs sur ces 250 milliards de dollars d'importations chinoises sont illégaux. Mais pour le gouvernement américain, la priorité est à la réduction du déficit commercial avec Pékin. Il est abyssal. En juillet, presque 30 milliards de dollars pour les seuls achats de biens. Politiquement, Donald Trump ne veut pas paraître faible face aux Chinois. Dans cette guerre commerciale qui n'en finit pas, les tarifs sont son arme favorite. Il y a peu de chances qu'il y renonce pour l'instant.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Il y a un peu plus de 5 semaines de l'élection présidentielle, Donald Trump s'est attiré hier la foudre des démocrates et de quelques républicains après avoir, nous vous en parlions dans ce journal hier, refusé de promettre un transfert pacifique du pouvoir si son rival démocrate Joe Biden l'emportait le 3 novembre prochain. Vous n'êtes pas en Corée du Nord, s'est scandalisé sa grande ennemie Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Quant au sénateur républicain Mitt Romney, qui s'oppose régulièrement au président, il a qualifié d'impensable et d'inacceptable toute suggestion par un président qu'il puisse se soustraire à la garantie constitutionnelle d'un transfert pacifique du pouvoir.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Pour protéger les femmes des violences récurrentes de leur conjoint ou ex-conjoint, Éric Dupond-Moretti a lancé officiellement le bracelet anti-rapprochement.
Visant à prévenir les forces de l'ordre en cas de nécessité, il est mis en place dans 5 juridictions à partir d'aujourd'hui, Pontoise, où le ministre de la Justice a lancé ce dispositif hier, mais aussi à Bobigny, Douai, Angoulême et Aix-en-Provence. Ce bracelet est équipé d'un GPS, il permet donc de suivre celui qui a déjà commis des agressions ou qui pourrait le faire. Cette mesure peut être prononcée avant un procès dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Françoise Briet est la directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Et pour elle, ce bracelet, s'il n'est pas la solution contre les féminicides, il est tout de même utile et c'est un outil qui était demandé depuis 2010.
Ce qui est un point important, c'est qu'il peut être prononcé en présententiel. Ça veut dire que dès qu'une femme a déposé plainte et qu'il y a un déferrement au parquet de l'auteur des violences, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, ce bracelet anti-rapprochement pourrait être mis en place. Et c'est important parce qu'on a souvent des femmes dont les auteurs de violences, en tous les cas leurs ex-conjoints ou conjoints, ne respectent pas ces décisions judiciaires. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à les harceler, à commettre des actes de violence. Et le temps qu'elles préviennent les services de police et de gendarmerie ou qu'elles apportent des preuves, le temps passe et elles n'ont pas toujours les éléments nécessaires à leur condamnation. Donc c'est un outil complémentaire. On a déjà tout un arsenal législatif. On a aussi le téléphone grave danger, bien sûr, qui est important. Derrière, il va falloir aussi qu'on organise des comités de pilotage dans les départements, au même titre que ceux qui sont en place pour le téléphone grave danger. Et surtout que les victimes soient accompagnées. Parce que porter ce dispositif, c'est pas non plus anodin. Ça les mettre face à la réalité du danger. Donc il faut absolument que les associations spécialisées du réseau Solidarité Femmes et d'autres réseaux soit proche de ces victimes, qu'elles puissent soutenir dans la durée et qu'on ait aussi un suivi socio-judiciaire des auteurs de violences très rapprochés pour que, évidemment, la sanction aussi prenne son sens.
Françoise Briet, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. À suivre dans le journal de 7h30, les funérailles symboliques de la pêche artisanale, puisqu'à Concarneau, dans le Finistère, un chalutier de 81 mètres de long s'apprête à être inauguré ce matin sur le port. Il est capable de pêcher plus de 100 tonnes de poissons en une nuit seulement. Inacceptable pour les défenseurs de l'environnement. Le temps de ce vendredi 25 septembre, marqué par une vigilance orange pour pluie et inondations dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, un temps perturbé dans le reste de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera entre 11 et 20 degrés du nord au sud.